Bon, normalement, aujourd'hui, on devrait terminer l'Ancien Testament. C'est un survol de haut, là. Donc, on a vu différentes caractéristiques de la Bible, qu'elle est la parole de Dieu, elle est sans erreur, inhérente, elle est l'autorité. Il y a une unité dans la Bible, une unité de pensée. On voit que c'est un seul auteur derrière les multiples auteurs humains. La Bible, elle est claire, donc elle est accessible à tous, mais en même temps, elle est très profonde, puis on peut la creuser, on peut étudier la théologie toute notre vie et en sortir les richesses. On a vu la semaine passée qu'elle est un avertissement. Donc, si Dieu a pris la peine de nous parler, c'est pour nous avertir du danger. C'est pas juste, c'est une bonne nouvelle, mais si c'est une bonne nouvelle, c'est parce qu'il y en a une mauvaise. Puis Dieu commence par nous présenter la mauvaise, c'est qu'on est dans un monde corrompu. Puis nous-mêmes, on est destinés à aller en enfer si on ne fait rien, là, si on n'accepte pas son cadeau. Mais elle est aussi un encouragement, dans le sens qu'elle est de la bonne nouvelle, puis plusieurs encouragements de plusieurs formes. Donc Dieu s'est révélé dans la Bible pour nous avertir, mais aussi pour nous encourager. Il y a de grandes promesses pour ceux qui sont repentants. Puis même lorsqu'il y a des menaces très, très sévères, on voit l'aspect de la grâce de Dieu qui est disponible pour ceux qui se repentent. Comme dans 2 Chroniques, c'est lorsque, je crois que c'est au moment où Salomon a terminé la construction du temple, puis qu'il l'inaugure. Et Dieu dit, « Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura pas de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de dévorer le pays et quand j'enverrai la peste contre mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, s'il prie et recherche ma face, s'il revient de ses mauvaises voies, moi je l'écouterai des cieux, je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. » On voit Ésaïe aussi on a vu dans Ésaïe, il y a plusieurs menaces ou malédictions contre le peuple dans le péché. Mais il dit aussi dans Ésaïe 40, « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que son combat est terminé, qu'elle est graciée de sa faute, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. » Donc là où le péché a abondé, lorsqu'on se repent, la grâce surabonde. Donc la Bible nous encourage à prendre courage, justement, dans les temps difficiles. Il y a des temps difficiles sur cette terre, mais la Bible nous encourage. Il dit dans Psaume 94, « Quand une foule de préoccupations s'agite au-dedans de moi, tes consolations remplissent mon âme de délices. Ou souviens-toi de ta parole en faveur de ton serviteur, puisque tu m'as donné l'espérance. C'est ma consolation dans mon malheur, car ta promesse me fait vivre. » Ce qui est une grande consolation, comme Roger le faisait remarquer, on n'a pas vu de tous les miracles, comme le peuple d'Israël avait vu la traversée de la mer Rouge. Ou à l'époque de Jésus, il y a eu de grands miracles, mais depuis 2000 ans, on ne le voit pas. Mais ce qui nous encourage, c'est de savoir que Dieu est présent avec nous. Et c'est une présence réelle dont on peut se rendre compte. On voyait dans l'Ancien Testament, Josué 1:9 dit, « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi, prends courage. Ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. » Il est invisible, Dieu, mais comme le vent, le vent est invisible, mais on voit les effets sur les branches des arbres. On peut voir les effets de la présence de Dieu dans notre vie quand on en prend conscience. Et la Bible a comme but de nous faire prendre conscience, de nous rappeler que Dieu est là. Dans le Nouveau Testament aussi, Jésus a dit, « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. »
Des fois, je pense que c'est de prendre le temps de regarder ça. Souvent, on est trop en train de courir partout, on est trop en train de faire plein de choses, puis on le fait de nos mains, on le fait de notre propre effort, puis on n'arrête pas pour bûcher, on s'arrête pas pour voir qu'est-ce que Dieu fait, puis qu'est-ce qu'il a fait, puis s'il est là, puis faire tout ce qu'on pense. C'est d'arrêter.
Puis qu'est-ce qui peut nous aider à arrêter, puis observer ce que Dieu fait? La prière, c'est ça. C'est un des objectifs principaux, là. Un des bénéfices principaux de la prière, c'est d'observer ce que Dieu fait. Il est en train de nous parler, il est en train de nous aider. Donc, l'Ancien Testament nous a été transmis pour être un encouragement, pour produire l'espérance. Il est dit dans Romains, « Tout ce qui était écrit d'avance l'a été pour notre instruction. » Donc, même lorsque le peuple d'Israël se rebelle, murmure dans le désert, c'est là pour notre instruction que ça nous a été rapporté, afin que par la patience, par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Donc, même si on voit que l'homme est pécheur, retombe toujours dans les murmures, rebelle à Dieu, lorsqu'un homme ou une femme est un enfant de Dieu, Dieu le garde, le protège. C'est ça notre espérance. Le Nouveau Testament a aussi pour but de nous présenter l'espérance, puis plus particulièrement dans l'aspect que Jésus a été ressuscité. Ça, on le voit un peu partout dans le Nouveau Testament. Le fait que Jésus a été ressuscité, c'est ce qui est la plus grande source d'espérance pour nous. C'est le miracle pour lequel on doit tourner les yeux, sur lequel on doit tourner les yeux, se souvenir que Dieu l'a ressuscité, et c'est ce qui nous donne l'espérance. Par lui, vous croyez en Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts et lui a donné la gloire, afin que votre foi et votre espérance soient en Dieu. Ça reste une question de foi, parce qu'on ne l'a pas vu de nous, de nos yeux, là. On peut être comme Thomas, qui va croire seulement s'il voit, ou on peut croire sans voir, mais notre espérance reste basée là-dessus. Si on croit qu'on va être ressuscité à la fin des temps, c'est parce qu'on croit dans celui qui a ressuscité Jésus. Puis tout cela, le fait qu'il a ressuscité Jésus et qu'il va nous ressusciter, c'est la bonne nouvelle. C'est ce qu'on appelle l'Évangile. Dans Jean 5, 24, « en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Non, c'est simple, c'est ça l'Évangile. Ou une autre manière de le dire dans Éphésiens 1, « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, qui est la parole de Jésus, l'Évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit, qui avait été promis et qui constitue le gage de notre héritage en vue de la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. » C'est ça l'Évangile, c'est une bonne nouvelle. Mais parce que le Nouveau Testament parle beaucoup de la bonne nouvelle, les gens vont croire que le Nouveau Testament nous présente un Dieu qui est miséricordieux, puis que l'Ancien Testament nous présente un Dieu qui est vengeur. Et c'est le même Dieu, c'est la même situation de l'homme qui est perdu et qui a besoin d'être sauvé. Mais l'Ancien Testament nous annonçait l'Évangile qui allait venir, puis le Nouveau Testament nous présente l'Évangile qui est là. Et c'est le même Dieu. On a vu plusieurs prophètes la semaine passée. On va aller voir le prophète Ézéchiel. Il a été prophète à l'époque de la destruction du royaume de Juda. Donc, Juda, c'est la partie sud du territoire de la terre promise d'Israël. Mais lorsqu'il y a eu division après, à l'époque du fils du roi Salomon, Roboam, il y a seulement Juda qui est resté fidèle au Seigneur, en tout cas en grande partie, là, la majorité du temps. Puis Israël du Nord, plus rapidement que Juda, a subi le jugement de Dieu et a été détruit. Puis plusieurs ont été emmenés en captivité en Assyrie. Mais est venu éventuellement même la destruction de Juda. C'était à la fin du ministère de Jérémie. Donc Jérémie lui avait prêché avant. Et vers la fin de son ministère, lui a connu, il a vu la destruction de Juda. Quand Jérusalem a été assiégée. Puis Ézéchiel, lui, a commencé là. Donc les prophètes Jérémie et Ézéchiel se sont chevauchés. Il y a eu David, roi de tout Israël, et Salomon aussi. Et rendu au fils de Salomon, le royaume a été divisé. Puis Ézéchiel, il a fait partie d'un groupe d'environ 10 000 personnes qui ont été emmenées en captivité par le roi de Babylone. Puis c'est après la déportation, donc une fois qu'il n'était plus sur le territoire, que là, il a reçu la vocation de Dieu comme prophète. Dieu lui a dit, tu vas être mon prophète, puis il a commencé à prophétiser. Puis 10 ans après sa déportation, Juda s'est rebellé, parce que normalement, il aurait dû rester sous l'autorité de Babylone, ils se sont rebellés. Là, Jérusalem a été détruite. Mais lui, il était déjà déporté. Donc, si on regarde dans la chronologie, dans les lignes du bas, là, on voit l'époque des rois, puis on voit la destruction d'Israël, puis l'époque des rois continue pour Juda, puis vient la destruction de Juda. Puis en bas, on voit que c'était l'époque de Jérémie, le prophète. Il y a eu des petits prophètes aussi qui prêchaient en même temps, pendant ce temps-là. Puis Ézéchiel a commencé à ce moment-là. On l'appelle un des grands prophètes, là, parce qu'il a beaucoup écrit. Le livre est divisé en 3 sections. Premièrement, on voit le jugement de Jérusalem. Les 24 premiers chapitres, non, Dieu il prend la peine de vraiment les avertir. Là. Puis, il y avait beaucoup de faux prophètes qui s'étaient comme autoproclamés, qui se disaient prophètes de Dieu. Puis, eux autres, ils annonçaient, « Ah, le peuple d'Israël va... Ben, Juda va être épargné, la prospérité va revenir, ceux qui ont été emmenés en captivité vont retourner. » Mais tout ça, c'était faux. Là. C'était avant que Jérusalem soit détruite. Puis, Ézéchiel lui annonçait la destruction totale du royaume. Donc, c'est sûr que son message n'était pas très populaire, là. Sauf qu'il était le seul qui parlait vraiment au nom de Dieu. Les autres étaient des faux prophètes. Il y a eu plusieurs époques où les prophètes, c'était comme un métier, une profession qu'ils prenaient. Là. Moi, je vais être prophète, là. Puis ils pouvaient gagner leur vie comme ça. Parfois, le roi, il pouvait engager les prophètes à son service, là, pour lui donner les oracles de Dieu. Mais en fait, c'est tout inventé, puis c'est pour le flatter dans le sens du poil. Là. Donc, Ézéchiel passe 24 chapitres à prophétiser, à dénoncer les fausses prophéties et annoncer la destruction si le peuple ne se repent pas. Il y a eu ensuite, des chapitres 25 à 32, des prophéties contre les autres nations. Donc, non seulement Dieu veut juger le peuple d'Israël qui lui a été rebelle, mais il veut juger les autres peuples autour. Donc, il y a eu des prophéties contre les Ammonites, les Moabites, les Édomites, les Philistins, contre les villes de Tyr et Sidon, contre l'Égypte aussi. Puis la troisième partie, c'est la restauration du peuple de Dieu. Donc, Ézéchiel annonce, dans les chapitres 33 à 48, que oui, il va y avoir effectivement la destruction, mais il va rester un reste de cela. Dieu va comme faire le ménage, là, puis Dieu va restaurer son peuple. Puis alors que le peuple a perdu espoir, parce que ça se passe après que Jérusalem a été détruite. Donc là, le peuple est sans espoir, puis certains pouvaient croire que Dieu avait échoué, parce que Dieu avait dit, ça va être mon peuple. Là. La ville, le temple est détruit. Les gens pouvaient perdre espoir, mais Dieu leur dit, non, vous êtes toujours mon peuple. Tournez-vous vers moi, je vais vous restaurer. Puis là, il présente la grande œuvre de restauration de l'Éternel, mais qui s'étend pour plus loin là, que le simple retour de l'exil. On voit dans tous les enseignements qu'il donne, on voit que premièrement, ce qui est frappant lorsqu'on lit Ézéchiel, lorsqu'il reçoit la vocation de Dieu, c'est toutes les visions qu'il a de la grandeur de Dieu. Là. Comme des visions apocalyptiques. La gloire de Dieu, elle dépasse tout ce qu'on peut en dire. C'est comme indescriptible. Ça transcende. Ça dépasse notre capacité, même au niveau du langage, à exprimer toute la gloire de Dieu. Toutes les descriptions qu'on peut faire de Dieu, ça reste vague. On peut pas mettre Dieu dans une boîte. Là. Comme il dit, tel l'aspect de l'arc qui est dans la nuit, en un jour de pluie, donc comme l'arc-en-ciel, tel était l'aspect de la clarté qui entourait celui qui était sur le trône, qui entourait Dieu. C'était une apparition de la gloire de l'Éternel. Et à cette vue, je tombai la face contre terre. Ézéchiel essaie d'exprimer ce qu'il a vu. Ça ressemble à un arc-en-ciel, là. Mais c'est faible, ce qu'il nous dit. On peut s'imaginer que c'était très, très grandiose, très frappant. Même, il y a un bout où Ézéchiel est resté comme assommé pendant 7 jours, là. Il avait de la misère à s'en remettre parce qu'il avait vu une apparition de la gloire de l'Éternel. Puis il y a un aspect très fort qui ressort du texte d'Ézéchiel, c'est que plus on prend conscience de la gloire de l'Éternel, plus l'idolâtrie paraît abominable. Donc le texte met ça en contraste. Parce qu'on peut avoir de la misère à comprendre pourquoi Dieu est si en colère que des peuples adorent d'autres dieux. Il pourrait dire, arrangez-vous avec vos troubles. Non, mais plus qu'on se rend compte que comment Dieu est glorieux, c'est le Dieu créateur de l'univers, le Tout-Puissant, que les anges les plus puissants adorent, que seule l'apparition de sa gloire est assez pour nous jeter sur le dos. Là. Quand on se rend compte de cela, on se rend compte à quel point c'est affreux, c'est abominable de se tourner dans l'autre direction de la gloire de Dieu, de rejeter cette gloire-là. L'apparition de sa gloire, c'est lorsqu'on voit une manifestation de la gloire de Dieu. C'est sûr qu'on ne peut pas voir Dieu de nos propres yeux et vivre. Là. Si on voyait Dieu, on mourrait. Mais on peut voir une manifestation de Dieu. Puis une des manifestations de Dieu la plus éclatante, la manifestation de Dieu la plus éclatante, c'est Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre. La lumière est venue dans le monde. Mais les gens ont rejeté cette lumière-là. Pourtant, c'était une manifestation des qualités de Dieu, là, de sa gloire, de son amour, son pardon, sa puissance. Les gens l'ont rejeté, ça vient, ils se sont condamnés en faisant cela. Ça a montré le côté horrible de rejeter Dieu. Donc, de mépriser ce grand Dieu, c'est tellement grave que ça mérite un jugement sévère. Donc là, on arrête de considérer que Dieu est injuste dans ses jugements lorsqu'on prend conscience de toute la gloire qu'il mérite. Là, il mérite l'honneur. Lorsqu'il est méprisé, les gens qui osent mépriser ça, la gloire de Dieu, ils méritent un jugement terrible. Ils ne méritent pas la compassion de Dieu. À cause de cela, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, « Me voici contre toi. Oui, moi aussi. J'accomplirai mes jugements au milieu de toi, aux yeux des nations. » J'accomplirai contre toi ce que je n'avais pas encore accompli, ce que je n'accomplirai plus à cause de toutes tes horreurs. Un autre aspect qui ressort aussi, c'est qu'on voit que Dieu est partout. Et il n'est pas seulement dans son temple, parce que les gens pouvaient croire que Dieu était détaché de son peuple maintenant, là, vu que le temple a été détruit, le royaume d'Israël est détruit, que Dieu n'est plus là. Mais là, ce prophète-là annonce au peuple, Dieu est encore, c'est encore possible qu'il soit là. Ça, on le voit aussi dans Daniel, où est-ce que Dieu manifeste sa puissance. Donc, il est même avec son peuple en terre païenne, alors qu'ils sont à Babylone. Puis ça annonce, on le voit au fil des chapitres, lorsqu'Ézéchiel insiste là-dessus, ça annonce qu'un jour va venir où Dieu ne sera plus lié du tout à un lieu physique en particulier. Il sera présent là où son esprit sera à l'œuvre. C'est pour ça que Jésus a dit à la femme samaritaine, sa femme disait, est-ce qu'on doit l'adorer sur la montagne ou au temple? Elle se posait la question, c'est où qu'on adore Dieu? Jésus lui dit, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. À ce moment-là, l'assemblée, l'Église, le temple où Dieu est présent, ce n'est plus un lieu physique, ce n'est plus un bâtiment. Oui, on est dedans, c'est nous, dans le fond. Et lorsqu'on adore le Père en esprit, en vérité, on a une communion avec lui, nous sommes le lieu saint. Mais ça, déjà, Ézéchiel lançait l'idée dans l'Ancien Testament. Une autre idée qui est forte aussi, c'est que Dieu se garde un reste. Alors que le pays mérite d'être zappé, mais Dieu aussi reconnaît des justes là-dedans, il les garde. Puis dans le fond, lorsqu'il punit le peuple, c'est en même temps une opération de purification. C'est une opération de se garder un reste pour le salut. Le Messie va venir aussi, il sera un bon berger. Il y a une image qui est donnée. Il va être le bon berger pour ce reste-là qui forme réellement son troupeau. C'est un roi qui va descendre de David. Donc même pour les rescapés là, qui habitaient à Babylone, qui pensaient que tout était terminé, là, Dieu leur disait, non, parmi le reste que je me garde, il y a des descendants de la lignée de David. Et le Messie qui va venir est un descendant. Il a droit au titre de roi du trône de David. Puis il va fonder une nouvelle alliance. Puis la vision du temple le montre aussi, là. C'est une chose que la vision du temple montre, qu'il y a une grande séparation entre le sacré et le profane. Et le reste du peuple que Dieu se garde pour le salut, il est saint, il est sacré. Il n'y a plus de mélange d'un peuple où sont inclus des croyants et des non-croyants. C'est un peuple qui est exclusivement de croyants. C'est saint. Il y a une grande distinction entre le sacré et le profane, entre ce qui est saint et ce qui n'est pas saint. Donc, le futur peuple aura enfin un profond respect pour la sainteté. Même si on fait encore des péchés, puis qu'on a honte de notre vie, souvent, mais notre objectif, c'est d'être saint. Le chrétien réel a le Saint-Esprit en lui. Son objectif, c'est d'être saint. Puis on y arrive quand même, raisonnablement, là, à refléter la sainteté de Dieu sur la terre. Il y a aussi la vision des ossements. Ça, c'est un peu étrange, là, les ossements desséchés. Mais ça montrait aussi que Dieu, dans son plan, là, tout ne se terminait pas seulement lorsque le peuple d'Israël retournait de l'exil dans son pays. Oui, Dieu allait les faire ramener dans son pays, mais ce n'était pas complété encore. Là. Il y avait, les promesses allaient encore être accomplies plus tard. Il y avait une deuxième étape, ou même plusieurs étapes qui allaient venir. Puis le Messie va venir accomplir l'œuvre. Donc, lorsque le peuple d'Israël est retourné de l'exil, ce n'était pas encore le moment du Messie. Un autre aspect qui ressort assez fort aussi, c'est que dans les textes qu'on voit avant dans l'Ancien Testament, le peuple Dieu s'adresse principalement au peuple en entier. C'est comme si tout le peuple est jugé. C'est sûr que Dieu sait toujours reconnaître un juste parmi les injustes, là. Mais Dieu s'adresse au peuple. Mais dans Ézéchiel, il y a un aspect individuel qui est introduit. Chacun est jugé pour sa propre part de responsabilité dans la faute commune. Donc là, c'est pas seulement le peuple là, qui suit Dieu ou qui rejette Dieu, c'est chacun. Ça, c'était un peu nouveau là, pour les Israélites. Là. Puis on est responsable des fautes qu'on commet. Là. Puis parfois, on peut subir les conséquences des fautes de nos parents. C'est aussi ce qu'eux autres pouvaient se dire aussi. Dieu a averti le peuple d'Israël il y a des siècles de cela. Puis aujourd'hui, c'est nous autres, on mange les coups là, à cause que notre peuple n'a pas été fidèle. Mais Dieu prend la peine de leur dire, non, vous-même n'avez pas été fidèle. Vous-même, vous êtes responsable de ce que vous subissez. C'est sûr qu'il y a une accumulation de génération en génération, là, mais chacun est responsable. C'est qu'on a une responsabilité dans la faute, mais chacun a la possibilité de se repentir. Ça, c'est présent dans le texte aussi. Là. La possibilité de se repentir, c'est offert à chacun. Puis le reste que Dieu s'est conservé, c'est des gens qui ont été assez humbles pour avouer leur faute puis se repentir. Puis ça pointe à l'aspect de la nouvelle alliance qui sera individuelle et non plus nationale. C'est pas parce qu'on fait partie d'un peuple qu'on est sauvé, c'est parce qu'individuellement, on a accepté le cadeau de Christ dans notre vie. Puis là, on entre dans un nouveau peuple. Puis un autre livre qui est aussi impressionnant au niveau de la précision de ces prophéties, c'est Daniel. Daniel est composé en deux parties, les chapitres 1 à 6. C'est plus un récit, comme un récit historique, de ce qui s'est passé dans un épisode de la vie de Daniel, alors qu'il est déporté à Babylone. Donc lui, il faisait partie des captifs déportés. Puis les chapitres 7 à 12, C'est comme un rapport de toutes les visions qu'il a eues. Ben, toutes, je ne sais pas si c'est toutes, mais les visions principales qu'il a eues, les visions prophétiques qu'il a reçues et que Dieu voulait qu'il transmette. Puis ces visions-là, il les a reçues à différents moments de l'histoire. Là. Donc, on doit les associer à différents épisodes des 6 premiers chapitres. Mais les écrits historiques de Daniel sont regroupés dans les premiers chapitres et les prophéties dans les seconds chapitres. Oui, la totalité des prophètes faisaient des discours. Leur mandat premier, c'était d'aller parler au peuple de vive voix. Puis certains d'entre eux, Dieu les a conduits à écrire pour que ça reste consigné. Mais c'est ce qui est différent de Daniel. C'est pour ça qu'on le classe quand même parmi les prophètes, nous, là. Mais dans le canon juif, les Hébreux, là, ils mettent Daniel dans les récits plus historiques. Il n'est pas considéré comme un prophète parce qu'il n'y avait pas un mandat d'aller prêcher verbalement. Mais nous, on le considère comme un prophète quand même. Donc, si on regarde dans le niveau de la chronologie, ça vient après la destruction de Judas. C'est pas mal en même temps. Là. Donc, lui, il était au temps d'Ézéchiel. Mais Daniel a vécu, je sais pas combien de temps, mais peut-être une centaine d'années. Là. La dernière vision qu'a écrit, il était rendu vieux. Après l'époque des rois, lorsqu'il y a eu la déportation, il y a eu 70 ans d'exil. Et ça avait été prophétisé par Jérémie. Donc, dans Daniel, le récit des 4 premiers chapitres, c'est sous le règne de Nébuchadnezzar, celui qui a envahi Juda et qui a détruit le temple, qui a fait les captifs, le roi des Chaldéens, à Babylone. Puis là, Daniel et ses 3 amis, puis ils reçoivent, eux, une sagesse particulière de Dieu. Là. Dieu leur donne une sagesse qui fait qu'ils sont incomparables avec les autres. Là. Ce qui fait qu'ils entrent dans les faveurs du roi, ils entrent à son service. Donc ils sont à la cour du roi. On voit Daniel qui explique le rêve de Nébuchadnezzar alors que tous ces supposés prophètes qui étaient autour de lui, tous ces magiciens ont été incapables de lui expliquer le rêve. Et Daniel lui explique tout à la gloire de Dieu. On voit aussi dans ces chapitres-là les 3 amis de Daniel qui sont sauvés de la fournaise. Ils avaient été jetés vivants dans une fournaise de feu, là. Qui avait été craqué au max, là, tellement que les gardes qui les ont jetés dans le feu sont morts. Juste à cause qu'ils étaient trop proches de la fournaise. Puis là, tout à coup, le roi, il les voit marcher dans le feu avec un ange avec eux. Ils sont ressortis indemnes. Même leurs vêtements ne sentaient même pas la fumée. Donc, c'était une période de Daniel où Dieu a manifesté sa grandeur, sa puissance par des miracles. Puis, Nébuchadnezzar s'est converti à l'Éternel. Pas s'il est resté fidèle jusqu'à sa vie, là. Puis, parce que Daniel lui avait expliqué, il a vu l'accomplissement de la prophétie d'un deuxième rêve qui avait été expliqué par Daniel. Donc, Dieu a permis que son peuple reste en sécurité, puis en plus que sa gloire soit reflétée, que le roi le plus puissant de l'époque se convertisse et reconnaisse que l'Éternel est Dieu. Ensuite, on arrive au chapitre 5 où Nébuchadnezzar est probablement décédé. Il a passé le trône à son fils Belshazzar. Mais Belshazzar, lui, il n'a pas suivi la croyance de son père. Non. C'est à ce moment-là que Daniel reçoit les premières visions qui sont présentées au chapitre 7 et 8. Donc, c'est sous le règne du deuxième roi. Donc, il n'y a pas de visions qui nous sont rapportées sous le règne de Nébuchadnezzar. Les visions, en fait, c'est Nébuchadnezzar lui-même qui les a eues, que Daniel a expliqué. Mais sous le règne de Belshazzar, c'est Daniel qui reçoit les visions. Puis Belshazzar ne suit pas son père, puis il s'élève contre Dieu. Donc là, autant Nébuchadnezzar avait pu glorifier l'Éternel, son fils, lui, il fait honte à l'Éternel. Parce que Daniel lui avait dit, ton rêve, c'est que Dieu va t'humilier. Là, puis Nébuchadnezzar, il a perdu la tête. Là. Il s'est comporté comme une bête, il allait dans la forêt. Tout à coup, son esprit est revenu. Là, il a compris, OK, ce que Dieu avait annoncé, c'était vrai. Il a compris que Dieu était le seul vrai Dieu. Mais Belshazzar, lui, imagine que Dieu a vu qu'il n'y avait pas d'espoir avec lui. Là, parce que Dieu lui envoie une vision d'une main qui écrit sur un mur, là. Mais c'est pour lui annoncer la fin. Puis Daniel lui explique, que son règne, le règne des Chaldéens, va se terminer, puis le royaume va être remis aux mains des Mèdes et des Perses. Puis ça arrive le jour même. Belshazzar est tué, Babylone tombe aux mains de Darius, le Mède. C'est comme une condamnation. Mais on peut pas dire que Belshazzar n'a pas eu la chance de croire en Dieu, là. Parce que son père, il a vu son père, lui, qui rendait gloire à Dieu. Il l'a rejeté. Ça veut dire qu'il s'est enorgueilli, puis il a rejeté l'Éternel. Non, puis même quand il a compris ça, il a cru à ce que Daniel disait. Puis là, il voulait le récompenser, puis au lieu de s'humilier, il aurait pu faire comme le roi de Nénive, là, puis déchirer ses vêtements, puis supplier la pitié de Dieu. Il n'a pas fait ça, puis le soir même, il est mort. Puis le chapitre 6, ça se situe sous le règne de Darius. Donc là, Daniel est encore là, et là, c'est rendu le règne des Mèdes et des Perses. Puis c'est à ce moment-là que Daniel reçoit la vision du chapitre 9. Puis c'est à ce moment-là que Daniel est sauvé miraculeusement de la fosse au lion. Parce que les nobles, les conseillers du roi, là, ils n'aimaient pas Daniel, puis ils avaient convaincu le roi de faire une loi que les gens devaient se prosterner devant la statue du roi, ne pas adorer autre chose, puis Daniel a continué à adorer l'Éternel. Mais c'est Dieu qui a permis ça, parce que ça a glorifié Dieu. Dieu l'a sauvé de la fosse aux lions. Les lions ne l'ont pas attaqué. Puis, Darius, un peu comme Nebuchadnezzar, il donne gloire à Dieu. Ensuite, il y a une dernière vision qui est présentée, au chapitre 10 à 12. Ça a été reçu sous le règne de Cyrus, un autre roi. Donc, Daniel, il a vécu longtemps, il en a vu passer. Daniel devait être rendu un vieillard, dans les 90 ans, j'imagine. Toutes les prédictions de Daniel concernent 4 empires successifs. Puis c'est précis au point où ce que les historiens qui regardent ça, qui ne sont pas croyants, là, ils se disent que ça se peut pas que ça ait réellement été écrit à cette époque-là. Là. C'est trop précis. Ça a été écrit plus tard. Puis ils remettent en doute l'authenticité du livre de Daniel juste à cause que c'est trop précis. Et Daniel parle de l'empire babylonien, ensuite l'empire médo-perse. Ensuite, l'autre empire qui est venu, c'est l'empire grec, avec Alexandre le Grand. Puis un dernier empire qui est venu, c'est l'empire romain. Donc à l'époque de Jules César, Pompée, qui avait conquéri, c'est comme le chef militaire, qui a conquéri la région où se trouvait justement le pays d'Israël. Puis vient le royaume de Dieu par Jésus au temps du quatrième empire. Là, c'est sûr qu'il y a des débats, tout dépendant de notre position, comment on interprète les textes, là. Mais de toute façon, on est considéré encore comme dans l'Empire romain. Puis le royaume de Dieu est venu pendant le quatrième empire, par Jésus. Il y a un enseignement théologique fort aussi, là. On voit que Dieu est vraiment souverain dans l'histoire. Okay? Il va utiliser même des grands rois puissants là, pour accomplir son plan, jusque dans les détails. Il ne perd jamais le contrôle. On voit la capacité de Dieu aussi à prédire l'avenir. Parce que Dieu annonce ce qui va arriver, mais c'est lié vraiment, c'est dans la manière que c'est annoncé, il y a un lien direct qui est fait avec le fait qu'il est souverain. Donc, si Dieu est capable de prévoir l'avenir, c'est parce qu'il le contrôle. C'est pas seulement qu'il le voit dans le futur comme une machine à voyager dans le temps. C'est présenté dans le texte, ça ressort clair que c'est parce que Dieu contrôle les événements qu'il voit, qu'il peut prédire ce qui va arriver. Puis l'époque de Daniel, c'est une des rares périodes de l'Ancien Testament où Dieu fait plusieurs miracles. Donc, on donnait l'exemple tantôt de l'époque de Moïse, où le peuple d'Israël a vu plusieurs miracles. Puis ça a été écrit pour servir pour les générations suivantes. Puis les générations suivantes se réfèrent toujours aux miracles lorsque Dieu a sorti miraculeusement le peuple d'Égypte. Il n'y a pas eu de grosses périodes de miracles comme ça par la suite, non? Jusqu'à ce que le royaume soit détruit. Puis là, Dieu permet une autre période de grands miracles, où des hommes sont délivrés du feu, de la fosse au lion, où il y a des prédictions très frappantes comme que Cyrus va venir pour envahir. Là. C'est précis. Mais il n'y a pas seulement cette vision-là, il y a la vision de la statue avec les différentes parties. Là. Une pierre déboule, puis vient fracasser ses pieds. La pierre, dans le fond, c'est comme le nouveau royaume qui va venir. Là. Mais je pense que les deux visions parlent de la même séquence d'empire. Là. Les empires sont féroces, sont essentiellement mauvais, mais ils ont une fin, ils ont une faiblesse. Mais c'est sûr que juste d'étudier les prophéties, puis de faire le lien avec l'Apocalypse ou d'autres écrits dans la Bible, là, ça prend du temps. Là. Donc, il y a eu plusieurs miracles à l'époque de Daniel, mais ce qu'on voit, c'est qu'on ne doit pas s'attendre nécessairement à voir autant de miracles aujourd'hui. Par exemple, c'est une leçon qu'on peut tirer, c'est que Dieu, il y a eu des événements, des périodes de l'histoire où Dieu a fait beaucoup de miracles. Puis après, il se réfère à cela. Il va pas nécessairement en faire, même s'il agit encore, il ne perd pas le contrôle. Là. Il agit encore miraculeusement, mais pas nécessairement d'une manière où ce que même les incroyants vont le voir. Là. Puis ça s'est passé un peu la même situation dans la Nouvelle Alliance. À l'époque des apôtres, à l'époque de Jésus, il y a eu beaucoup de miracles que même les incroyants ont vus. Mais depuis ce temps-là, c'est ceux qui ont la foi, qui croient en se référant aux miracles qui ont été accomplis par Jésus. Chaque conversion est un miracle. Quelqu'un qui donne sa vie au Seigneur, qui lui reste fidèle, sa vie est transformée. Wow! Mais il faut être croyant pour le croire, ça. Il faut avoir la foi. C'est pour ça que Jésus a dit, heureux celui qui va croire sans voir. Dieu se manifeste, puis il va se manifester de manière éclatante sous l'aspect de l'amour. C'est ça qu'Éphésiens nous rappelle toujours cela, là, de connaître l'amour de Dieu qui est la largeur, la hauteur, la profondeur, puis la... Il y a quatre dimensions, là. De vouloir annoncer l'Évangile par les miracles, de vouloir que les gens voient la manifestation de l'Esprit pour les amener à croire. Puis c'est un piège parce qu'il y en a qui embarquent puis que finalement, ils n'ont jamais reçu l'Esprit, là. Puis ça, c'est le piège dans lequel plusieurs églises aujourd'hui tombent. Un aspect qu'on a touché un peu tantôt aussi, qui revient fort dans Daniel, c'est que le pouvoir humain tend inévitablement à se corrompre. C'est pour ça que tous les empires sont comparés à des animaux féroces qui ont des fragilités, à dégénérer, à s'enfoncer dans le mal. Puis c'est une tendance générale dans tous les peuples. Hein. Aussitôt qu'il y a du pouvoir, ça tend à se corrompre. Oui, mais je pense que dans le milieu baptiste, on a été longtemps accusé de ne pas croire au miracle. C'est peut-être en réaction à cela qu'on a dit « Non, on croit au miracle, voici ce que Dieu a fait. » On a développé une habitude de parler des miracles de Dieu, mais c'est davantage des signes pour nous, on voit Dieu agir. D'ailleurs, l'Évangile de Jean n'utilise presque pas le mot « miracle », mais utilise le mot « signe ». C'est des signes pour les croyants. C'est l'intervention de Dieu pour faire tourner les événements d'une manière surnaturelle. Ce n'est pas toujours du surnaturel, c'est ça. Nous, on le comprend que c'est l'intervention de Dieu. Mais lorsqu'on prend l'habitude de prier puis de voir Dieu agir, on se rend compte qu'il est tout le temps là. Donc, toute notre vie est un miracle. Et il nous envoie des signes pour nous rappeler sa présence. Ou même sur notre demande, il peut manifester sa présence dans sa grâce. Ah oui, c'est un miracle. C'est dans plein de petits détails. Là. Il y a eu un temps où, quand je travaillais encore comme ingénieur, là, les dernières années, mon horaire était très chargé. Souvent, j'avais des clients qui m'appelaient le soir. Là, je courais la fin de semaine, des fois aussi. En même temps, je servais à l'église. En même temps, j'avais les cours de théologie. L'horaire était plein, là. Puis ça arrivait très fréquemment que j'avais des conflits d'horaire. Puis je voyais pas comment résoudre ça, là. C'est pas parce que j'avais cédulé deux rendez-vous en même temps. C'est parce que ça arrivait comme ça. Puis là, je priais le Seigneur. Puis le Seigneur arrangeait les événements pour qu'il y en ait un qui soit cancellé. Pour moi, c'était tout des miracles. À chaque fois que Dieu intervenait, là, je le voyais, là. Mais même si j'en parlais à mes collègues, pour eux, c'est des coïncidences. Ça arrive, quelqu'un qui est condamné du cancer, là, puis qu'on prie en assemblée, et la semaine d'après, il n'y a plus de traces de cancer. Des fois, ça défie la science. Ouais. Ce n'est pas toujours le cas. Là. Des fois, c'est exagéré. Là. Ce que Daniel annonce aussi, c'est que les captifs vont retourner en Israël, mais le Messie lui va venir plus tard. Un peu comme Ézéchiel, donc il dit la même chose. Ça ne sera pas tout en une seule étape. Tout va se passer en même temps. Il annonce aussi que le Messie va être rejeté, souffrant, et que l'histoire du monde va voir plusieurs fins. Puis ça annonce un peu notre époque où on est à la fin des temps. Les apôtres disaient qu'on est à la fin des temps. On est encore à la fin des temps depuis 2000 ans. Là. On est dans la fin des temps jusqu'à ce que la fin arrive, là, la dernière fin. C'est ce qui explique pourquoi on voit des signes de la fin des temps. C'est sûr qu'ils s'intensifient, les signes, là. De plus en plus de tremblements de terre, le mal dans le monde augmente. Les signes du retour de Christ s'intensifient, mais ils étaient là au début. Là. Puis même comme il va y avoir l'Antichrist avec un R majuscule, il y a des Antichrists qui viennent. Mais la dernière fin va être marquée par une grande affliction, puis par la résurrection. Donc Dieu réserve à la dernière fin pas seulement une destruction du monde, mais une résurrection. Il dit dans Daniel 12, « Ce sera un temps d'affliction tel qu'il n'y en a pas eu depuis que les nations existent jusqu'à ce temps-ci. En ce temps-là, ton peuple échappera, quiconque sera trouvé inscrit dans le livre. Et beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte, pour l'abjection éternelle. » C'est clair. Puis l'expression « beaucoup », ça ne veut pas dire seulement certains parmi ceux qui dorment, ça veut dire qu'il y en a beaucoup. Mais tous ceux qui sont morts vont ressusciter, certains pour la honte éternelle, puis d'autres pour la vie éternelle. De l'époque aussi, parce qu'ils ont été 70 ans en captivité, de l'époque où c'était le temps de revenir au pays, il y a eu deux écrivains, on ne sait pas si c'est eux qui ont écrit les textes, là. C'est Esdras et Néhémie qui ont vécu à la même époque. Puis même, on peut dire que les deux livres, Esdras et Néhémie, forment un peu un livre, un ensemble. Ça couvre environ une période de 100 ans, à partir du retour de l'exil. Ça décrit le retour d'exil. Les Juifs pensent que c'est Esdras qui est l'auteur, ça fait du sens. C'était un savant, là, un érudit. Ça se peut que ce soit lui qui a écrit. Mais le texte ne le dit pas. Si on regarde là, les 70 ans d'exil, il est arrivé un temps où ils sont retournés à Jérusalem. C'est là qu'ils sont intervenus Esdras et Néhémie. Dans Esdras et Néhémie, ça présente quatre événements importants. Le retour d'exil, la construction du temple. Ça, c'est le roi Cyrus qui autorise les Juifs à retourner à Jérusalem. Là, tu vois vraiment la main de Dieu là, qui intervient. Parce que pourquoi qu'un roi autoriserait un peuple esclave là, à retourner dans leur pays, reconstruire leur temple, au point où est-ce que les autres gouverneurs là, trouvaient ça bien, bien étrange. Là. Mais c'est Dieu qui a convaincu Cyrus de le faire. Puis c'est Zorobabel qui est à la tête des Juifs pour les conduire là. Un peu comme une figure du Messie. Pendant qu'ils sont là-bas, les travaux cessent à cause qu'il y a beaucoup d'opposition. Les peuples ne veulent pas qu'ils reconstruisent le temple parce qu'ils disent qu'ils vont reprendre de l'assurance, ils vont reprendre le pouvoir. Là. Mais les travaux reprennent à cause que Dieu envoie des prophètes comme Agée puis Zacharie qui les encourage, les exhorte. Ça, c'est le premier événement. Le deuxième événement qui est décrit, c'est la mission d'Esdras. Esdras, c'était un prêtre zélé, très connaissant des Écritures. Puis il est envoyé, lui, par le roi successeur de Cyrus, le roi Artaxerxès. Il est envoyé à Jérusalem pour s'assurer que la loi de l'Éternel soit vraiment obéie, suivie. Ça, c'est encore surprenant pour un roi païen qui l'envoie à un prêtre de l'Éternel pour s'assurer que la loi de l'Éternel soit appliquée à la lettre. Puis il est envoyé avec un convoi de prêtres puis de lévites. Puis quand il arrive là, Esdras, il constate que le peuple viole la loi. Il dit, coudonc, ils ne comprendront jamais. Ils sont de retour là, d'exil, là, puis ils violent la loi. Ils ont pris des femmes étrangères, puis ils ne respectent pas les lois de Dieu. Puis Esdras il les exhorte, puis il les pousse à la repentance. Un troisième événement, c'est Néhémie, qui est envoyé, lui aussi, en Israël, dans son premier séjour, son premier passage là-bas. Lui est envoyé pour reconstruire la muraille, donc la muraille autour de Jérusalem, reconstruire la ville. Néhémie, lui, c'est un haut fonctionnaire du roi, un juif. Il est envoyé à Jérusalem pour reconstruire la muraille. Puis il devient, alors qu'il est rendu là-bas, il devient le gouverneur. C'est lui qui administre la loi, puis il représente le roi, mais en Israël. Donc là on voit que ça ne fait pas le bonheur des autres peuples qui sont là, puis ils veulent les attaquer, ils veulent les décourager de construire la muraille. Puis là, Néhémie doit exhorter le peuple, les encourager à construire, mais avec l'épée sur eux. Là. Ils doivent être prêts à se défendre à tout moment, qu'ils peuvent subir une attaque. Puis sous son administration de Néhémie puis la direction d'Esdras, le peuple s'engage à suivre la loi de Dieu. Donc, tout le peuple s'engage, nous allons suivre la loi de Dieu, un peu comme ils avaient fait à l'époque de Josué. Là, Néhémie doit retourner pour un temps. Et quand il revient, même si le peuple s'était engagé, quand il revient, là, il est encore abasourdi de voir que le peuple s'est détourné. Il s'était absenté plusieurs mois. Quand il revient, il voit que le péché s'est installé rapidement. Il doit les corriger de plusieurs fautes qui sont dues à leur négligence. Là, il y a des païens qui ne croient pas en Dieu, qui ont été admis dans leur conseil. Eux, ils ont pris des femmes étrangères qui ne croient pas en Dieu. Ils ne respectent pas la dîme, le sabbat. Ils ont déjà commencé à flusher la loi de l'Éternel. Donc ça nous enseigne. Un enseignement sur Dieu, premièrement, qui gouverne le monde entier, un peu comme on l'a vu avec Daniel. Il protège son peuple, même quand ce n'est pas d'une manière miraculeuse. Il n'y a pas de miracle qui est dit dans Esdras et Néhémie, mais on voit très bien Dieu qui contrôle les événements, qui les protège. Ça dépasse les probabilités là, qu'un peuple réduit en petit nombre réussisse à reconstruire le temple, réussisse à reconstruire la muraille, qui était vraiment comme un affront au peuple qui habitait là. Puis on voit que c'est Dieu qui les a protégés. Puis on voit Dieu qui les pousse à la repentance aussi, qui les fortifie, qui leur donne courage. Donc ça nous ressemble, on peut s'identifier à eux à notre époque. Là. Il utilise même les païens pour accomplir son plan. La restauration du temple, ça montre. Puis la restauration de la muraille, ça symbolise la restauration du culte saint. Vraiment que le peuple ait une réconciliation avec Dieu. On voit que le peuple doit se purifier. Donc quand Dieu demande l'observance de sa loi, c'est total. Ils doivent mettre beaucoup d'efforts à se conserver saint. C'est pas une fois pour toutes, puis après tu te laisses aller. C'est vraiment un effort constant pour se conserver saint dans l'obéissance. On voit des païens qui se convertissent. Il y a certains païens qui deviennent croyants, puis ils sont invités à se joindre au peuple de Dieu. Mais aucun incroyant ne doit être admis dans le peuple de Dieu. C'est pas qu'il peut pas, y passer, venir les visiter, mais il ne doit pas être considéré comme faisant partie du peuple de Dieu. C'est ça. Les croyants, c'était les Juifs, puis les incroyants, c'était les autres nations, les païens. On voit aussi que la lecture et l'enseignement des Écritures, ça a une place importante dans le culte. Lorsqu'ils se réunissent, Esdras leur fait la lecture des Écritures. Dieu est en train de montrer ce qu'il souhaite pour son peuple. C'est vu que c'est parmi les derniers écrits de l'Ancien Testament, ça nous donne une indication de ce qu'il veut dans nos cultes aussi, là, l'étude de sa parole. Puis on voit ce que ça entraîne. On voit que la piété inclut la prière aussi, sous plusieurs formes, plusieurs longueurs. Le peuple a prié, a jeûné. Puis la piété inclut la réalisation de projets communs aussi. Les gens, ils sont tous embarqués dans un projet commun de construire le temple, construire la muraille. Même si la foi est individuelle, là, c'est un travail d'équipe. Quand il y a eu la dédicace là, du temple, là, puis qu'ils ont fêté la Pâque, là, c'était grandiose. On voit malheureusement l'incapacité du peuple à rester fidèle à Dieu. Donc, ça se termine quand même sur une note malheureuse, mais on voit qu'il y a toujours possibilité de se repentir, mais c'est un travail constant de rester fidèle à Dieu. Non, il y en avait qui étaient supposés de le faire, mais c'est eux qui se corrompaient en premier. On va juste voir rapidement quelques points d'Esther, on va conclure là-dessus. Là. Si on résume, là, ça se passe au temps des Mèdes et des Perses, mais c'est dans un autre coin, un petit peu plus loin, là, à Suse. Il y a un grand peuple. L'auteur est anonyme, on ne sait pas c'est qui, là, mais c'est sûr qu'il semble avoir vu ce qui s'est passé. Là. Donc, ça se passe après le retour d'exil. Esther, c'est une jeune juive qui devient reine de Perse. Donc, c'est assez improbable que ça arrive, là, mais elle devient la reine. Puis même une fois qu'elle est reine, elle reste fidèle à son oncle, Mardoché, qui lui donne des consignes. C'est un homme qui aime Dieu. Son oncle qui est croyant, il reste fidèle. Puis à cause de son courage, elle parvient à sauver son peuple. Parce qu'il y en avait d'autres qui manigançaient, qui détestaient les Juifs, puis qui voulaient trouver des trucs pour que le roi détruise complètement les Juifs. Mais elle parvient à sauver son peuple. Puis non seulement à Suse, mais dans tout le royaume. Il y a une particularité. Il y en a qui ont critiqué le livre d'Esther parce que le nom de Dieu n'est jamais présenté. Jamais qu'on parle de Dieu ou de l'Éternel. C'est jamais mentionné. Mais on dirait que c'est intentionnel, que l'auteur veut nous montrer que même lorsqu'on ne déclare pas que Dieu est en train de faire quelque chose, on peut le voir agir. Puis ça a l'air vraiment être intentionnel, parce qu'il y a plusieurs endroits où ça aurait été très facile de le dire. Il y a des messages qui sont envoyés là pour que celui qui croit le voit. Comme il est dit dans le chapitre 4, c'est Mardoché qui avertit Esther. Il dit, si tu continues à te taire, en cette occasion, parce qu'elle avait appris elle, le massacre qui s'en venait, là, si tu continues à te taire, le soulagement et la libération des Juifs surgiront d'un autre côté, alors que toi et la maison de ton père, vous périrez. D'ailleurs, qui sait si ce n'est pas pour une occasion comme celle-ci que tu es parvenu à la royauté? Donc, tu vois ce qu'il y a derrière la tête de Mardoché en disant ça, c'est que c'est Dieu qui contrôle ça. Son plan, c'est de sauver son peuple. Puis si toi, si tu n'utilises pas toi, là, il va utiliser quelqu'un d'autre pour accomplir son plan. On voit le dénouement heureux de l'histoire aussi, qui est une réponse à la prière. C'est Esther qui dit, va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse, jeûner à mon intention. Jeûner, elle dit pas prier l'Éternel, mais c'est sous-entendu. Jeûner à mon intention sans manger ni boire pendant 3 jours, 24 heures sur 24. Et moi aussi, je jeûnerai de même avec les jeunes servantes dans ces conditions. J'irai chez le roi malgré la loi si c'est pour ma perte et je périrai. Donc, Dieu est tellement présent que l'auteur n'a pas besoin d'en parler. Puis on voit aussi qu'à ce moment-là là, de l'histoire, les Juifs auraient pu être éradiqués de la planète. Puis Dieu a permis qu'ils soient sauvés. Puis vu que c'est un des derniers écrits, là, c'était pour montrer que Dieu allait permettre, peu importe les événements qui allaient survenir, que les Juifs survivent pour que le Messie puisse venir. Donc, si Dieu n'était pas intervenu, le Messie n'aurait pas pu venir. Là, on ne verra pas un et deux chroniques, mais on aurait conclu là-dessus. Mais je vais juste vous dire, il y a des questions qu'on se pose parfois lorsqu'on lit un et deux chroniques, si on les compare aux récits de Samuel et de Roi. Il n'y a pas nécessairement la même description des événements, mais c'est intentionnel. Il faut comprendre, lorsqu'on lit un et deux chroniques, que l'intention, ce n'est pas seulement de rassembler tous les écrits possibles, historiques, et en faire. Ce n'est pas un historien seulement qui nous parle. Son intention, c'est de montrer vraiment que Dieu veut établir une relation avec son peuple. C'est pour glorifier le culte à l'Éternel. Puis là, les aspects qui ressortent les plus forts, par exemple, du règne de David et de Salomon, c'est tous leurs efforts qu'ils ont mis, dans le cas de David, à préparer la construction du temple, tous les détails. Puis du côté de Salomon, tout l'effort qu'il a mis à construire le temple. Puis dans cet aspect-là de leur vie, ils ont été exemplaires dans ce qui est de montrer ce qu'un roi devrait faire pour conduire son peuple à adorer l'Éternel. Ils ont été exemplaires. Puis on peut comprendre pourquoi que l'auteur met les fautes de David et les fautes de Salomon de côté, parce que son but, c'est de présenter ce que devrait être un culte à l'Éternel. Lorsque vous relirez les chroniques, si vous avez ça en tête, ça devient clair à quel point que l'auteur veut montrer l'importance d'un culte saint à l'Éternel. Okay, courbons-nous un instant.